Alors, cet exemple du jeu sur smartphone est un bon exemple parce que cette entreprise suédoise qui est l'éditeur de ce jeu n'est justement été la plus fâchée dans l'histoire parce que.
Elle était très très angry.
Exactement. Alors, je ne sais pas s'ils ont été sautés sur leur éditeur de pub, puisque c'est l'éditeur de pub en question qui est en cause ici. Alors, on est dans une ambivalence ici. Les gens veulent des jeux gratuits, mais en même temps, le modèle de financement de ces jeux, c'est celui de la publicité. Pour que la publicité soit rentable, il faut que la publicité elle soit ciblée. Et pour qu'elle soit ciblée, il faut récupérer des informations sur l'utilisateur. Si on sait quel est votre âge, votre sexe, votre lieu d'occupation ou vos hobbies, etc., on peut cibler la publicité de façon à ce qu'elle soit plus rentable. Et ces données privées, on n'a pas envie non plus qu'elles soient divulguées à des tiers. Et les tiers, dans l'occurrence, c'était les services secrets, donc anglais et américains, mais bon, ce ne sont sans doute pas les seuls, qui espionnent les données qui se transitent sur le réseau lui-même pour ces prestataires de publicité pour ces jeux. Donc du coup, ils récupéraient des informations pour Angry Birds, mais pour d'autres jeux aussi sur smartphone, via ce biais, en pompant ce qui était récupéré pour cibler la publicité.
Alors, c'est un véritable business finalement, ce genre d'espionnage, parce qu'on peut revendre ensuite toutes ces données, non?
Alors, dans le cadre des services secrets, je pense que c'est pas pour de la vente, mais effectivement, c'est un risque que le ciblage soit fait pour des visées mercantiles. Je pense que il y a effectivement beaucoup d'argent en jeu derrière, parce que le moteur principal de financement en Internet aujourd'hui, c'est la publicité ciblée. Donc c'est effectivement des gros enjeux.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a moyen de bloquer un peu, justement, si on veut jouer à Angry Birds, est-ce qu'on peut installer quelque chose ou faire attention de ne pas cliquer une certaine petite coche pour un peu mieux se protéger?
Alors, sur un smartphone, c'est assez difficile, parce qu'en général, les environnements sont assez fermés, pour des bonnes raisons aussi. Ça permet d'éviter d'avoir des logiciels malicieux, des virus, etc. Mais c'est assez difficile, parce que ça se fait sans que vous voyez vous n'avez pas rentré vous-même les informations en question. Elles sont simplement extraites des habitudes d'utilisation que vous avez, et peut-être aussi de failles dans les logiciels qui sont sur votre smartphone. Si vous êtes sur un ordinateur, vous avez effectivement des plugins, des petits bouts de logiciels additionnels qui peuvent s'ajouter à votre navigateur, qui permettent d'éviter en partie d'envoyer des informations privées. Mais malheureusement, on ne peut pas toutes les enlever. Il y en a une grande partie qui est aussi nécessaire pour simplement vous fournir un service. Si vous décidez d'utiliser les services de Google, vous allez de toute façon envoyer des informations qui dandisent un peu sur vous.
Aujourd'hui, est-ce qu'il faut être paranoïaque ou simplement, est-ce qu'il faut être conscient qu'on laisse des traces de chacun de nos actes sur le web? En être conscient, ça suffit?
Je pense qu'être paranoïaque, ça ne sert à rien de toute façon. C'est plutôt effectivement être conscient. Je pense que ça joue beaucoup au niveau de l'éducation qu'on peut faire des jeunes qui utilisent ça sans forcément se rendre compte des implications. Par exemple, l'histoire du droit à l'oubli, le fait qu'on peut poster quelque chose aujourd'hui qui sera retrouvé dans 10 ans, on n'aura pas forcément envie. Le fait de savoir que ce qu'on va donner comme information peut être utilisé par des tiers, pas forcément toujours pour les bonnes raisons. C'est juste une question d'apprendre aux gens à utiliser sans toujours rejeter le bébé avec l'eau du bain, comme si on veut. Quoi.
Donc, est-ce qu'on peut être anonyme, en fait?
Sur Internet, c'est un leurre d'être anonyme?
Je pense que oui, c'est un leurre, oui.
Vous-même, Étienne Rivière, qui est un spécialiste en la matière, votre utilisation du web, des réseaux sociaux, vous êtes sur Facebook, sur Twitter, vous jouez à Angry Birds sur votre smartphone?
J'ai dû le télécharger, effectivement. Oui, je suis un utilisateur moi-même, mais je pense que je sais peut-être mieux que d'autres sélectionner les informations que je mets. Alors après, c'est quelque chose qui s'apprend aussi avec l'utilisation. J'étais un des utilisateur d'Internet depuis assez longtemps, depuis les débuts. Mais je pense que c'est les bonnes habitudes qui se prennent peuvent être transmises effectivement à des jeunes ou au grand public.
Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont grandi avec Internet, ils sont censés finalement être les mieux informés des différents risques, des différents dangers qu'il y a sur Internet. Et puis, on a l'impression qu'ils balancent tout et n'importe quoi sur le web, sur les réseaux sociaux, en ayant peu finalement cette conscience des risques d'Internet, alors qu'ils ont grandi avec ce média-là, avec cette technologie-là.
C'est pas vraiment les risques d'Internet en général, c'est plutôt les risques de certains sites de réseaux sociaux. Internet n'est pas uniquement les réseaux sociaux et les sites participatifs comme ça, il y a aussi tout le contenu statique, institutionnel, etc. Mais effectivement, cas des réseaux sociaux, je pense que c'est juste l'illusion de la gratuité, l'illusion de l'instantanéité. Et le modèle économique de ces sites fait que leur intérêt, eux, c'est de garder le plus d'informations possible pour vous cibler de la publicité ou avoir des informations sur vous. Donc du coup, ces deux intérêts sont assez contradictoires, si on veut. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans l'esprit des jeunes qui utilisent.
Alors Étienne Rivière, on arrive gentiment à la fin de l'émission, mais quand même une petite dernière question avant de se quitter. À votre avis, la tendance pour le futur, c'est qu'on va réussir quand même à avoir un peu plus de vie privée sur Internet, ou au contraire, ça va devenir de plus en plus public?
Alors, techniquement, je pense que si on est uniquement sur une évolution technologique, on n'aura sans doute pas grand-chose de plus. La balle, elle est beaucoup dans le camp des juristes et des gens qui s'occupent justement des libertés fondamentales. Je ne vous cache pas que la tendance n'est pas vraiment au grand optimisme de ce point de vue-là, du point de vue des gens qui voyaient Internet comme un espace de liberté. On a certains hackers, certains grands noms de la communauté informatique qui pensent que l'Internet en tant qu'espace de liberté et d'anonymat, c'est un peu terminé. Alors après, c'est aussi ce que les gens en font, l'outil est ce que les gens en font. Donc si les gens refusent l'utilisation de systèmes qui passent trop de temps à les espionner, peut-être que d'autres émergeront avec des positions plus éthiques.
Merci beaucoup Étienne Rivière pour toutes ces explications. Je rappelle que le café scientifique Internet l'indiscrète, il a lieu demain à partir de 18h, c'est à la cafétéria du bâtiment principal de l'université de Neuchâtel, avenue du 1er mars 26, comme ça on a toutes les indications, on les mettra également ces indications sur le blog de Format 3, et ouais, faudra aller sur Internet pour avoir et ces informations.
Mais on vous surveillera pas plus que ça.
Non, belle journée, merci beaucoup.
Merci.